Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez juste après VibraSOS Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, l'horaire habituel, voilà, pour vous tenir informé de l'actualité scientifique sur Radio Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet pendant la diffusion en direct ou en différé ou avec la possibilité de pouvoir récupérer également les podcasts de toutes les émissions de Graphite. Donc graphite.net et poursuivre bien sûr l'actualité de Graphite. Vous avez la page Facebook, le compte Twitter, bref, les réseaux sociaux sont bien sûr à notre aide pour pouvoir vous informer de l'actualité de Graphite. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier. Au niveau de l'éphéméride, il n'y a pas de journée internationale, donc il n'y a rien aujourd'hui. Il n'y a rien qui s'est passé un 18 janvier d'un point de vue de sciences et techniques. Alors, c'est quand même assez bizarre, mais il y a quand même des naissances. Naissance en 1910 de Pierre Jacquinot, physicien français, avec pas mal de choses qu'il a faites dans sa carrière. Et il a notamment présidé l'Académie des sciences entre 1980 et 1982. Pierre Jacquinot, né le 18 janvier 1910. Il est mort à Paris en 2002. Un décès le 18 janvier 1782 de Sir John Pringle, médecin écossais. On lui doit un travail de pionnier en médecine militaire, en particulier en ce qui a trait à la salubrité, à l'asepsie. C'est un petit peu le côté antiseptique, on va dire. Il a aussi une place dans l'histoire de l'humanisation des lois de la guerre. En fait, vers le temps de la bataille de Dettingen en Bavière, nous sommes en juin 1743, Pringle, par l'entremise de son supérieur, le comte de Ster, est à l'origine d'un accord original avec le maréchal de Noailles, qui est le commandant français. Et à cette époque, les blessés devaient être évacués à la hâte ou alors laissés carrément à la merci de l'ennemi quand un mouvement de troupes mettait les hôpitaux militaires à portée de celui-ci. Et donc John Pringle engagea le comte de Ster et le maréchal de Noailles à convenir que ces asiles du malheur seraient réciproquement respectés, et son zèle obtient la récompense qui pouvait le plus te toucher, puisque ses compatriotes furent les premiers qui profitèrent de cette convention. Après la bataille d'Étingue, eh bien un hôpital anglais se trouva dans le terrain occupé par l'armée française, et le premier soin du maréchal de Noailles fut de rassurer les soldats qui étaient déposés en leur annonçant que les troupes françaises avaient ordre de ne pas les inquiéter. Et donc on peut voir dans cet événement une étape vers le premier article de la première convention de Genève du 22 août 1864 qui explique que les ambulances et les hôpitaux militaires sont reconnus neutres et comme tels protégés et respectés par les belligérants. Et tout ça donc vient de ce médecin écossais John Pringle, qui est donc décédé le 18 janvier 1782. Voilà, c'est l'éphéméride de ce 18 janvier. Nous sommes en 2020 et on est en train de se demander comment on pourrait réduire le temps passé en salle d'attente chez le médecin. 60% du temps d'une consultation médicale est dédié à l'interrogatoire du patient et à la prise de ses mesures. C'est ce qu'atteste Lucas Porté, qui est un étudiant de l'école Épithèque de Rennes et qui vient de remporter avec ses 7 coéquipier le prix du meilleur projet étudiant de troisième année avec sa borne de prédiagnostic. Et partant de ce constat et d'une enquête auprès d'une quarantaine de médecins, il a imaginé une espèce de borne d'accueil à implanter dans les salles d'attente et qui est capable de faire un prédiagnostic avant même la consultation. Notre but est de faire gagner du temps aux médecins et de réduire l'attente de leurs patients. C'est ce qu'explique donc cet étudiant Lucas Porté. Alors concrètement, lorsqu'un patient se présente en salle d'attente, il est invité à se diriger vers la borne interactive et celle-ci va d'abord poser une série de questions simples pour localiser les gènes rencontrés par la personne, mal de gorge, douleur à la cheville, démangeaisons, et lui demander ses antécédents médicaux. Le patient pourra également prendre ses constantes en toute discrétion, le pouls, la tension, la température, le poids, et tous ces renseignements sont transmis en temps réel au médecin avant la consultation, avec un système d'intelligence artificielle qui va classifier chaque patient, comme urgent, risqué ou stable. L'idée n'est pas de remplacer le diagnostic du médecin, mais de lui faire gagner du temps en déléguant ses tâches très chronophages et facilement réalisables. Le médecin peut alors se concentrer sur la qualité de la consultation. C'est ce qu'explique Lucas Porté, je vais y arriver. Un moyen, bien sûr, de rassurer les patients. Un premier prototype prototype de borne devrait être prêt rapidement, en mars 2020. Hein, c'est ce qu'estime cette équipe d'étudiants qui cherche encore un partenaire technique pour la partie matérielle. Nous visons en priorité les maisons de santé ou les cabinets de médecins associés dans les déserts médicaux, notamment en périphérie des villes. Les médecins pourront louer la borne avec un abonnement à la partie logicielle. Chaque année, donc, cette école Epitech à Rennes encourage ses étudiants de 3e et de 5e année à développer des projets innovants en s'inscrivant dans une démarche qui est un petit peu la technologie tech for good, donc la technologie peut être bonne pour nous également. Et il y a eu pas mal de projets qui ont été récompensés. Un porte-clé, lanceur d'alerte contre les violences conjugales, une plateforme de partage de repas entre particuliers, une application de suivi d'accompagnement du traitement kinésithérapique de patients, et une solution de stockage d'ordonnances et de rappel pour la prise de médicaments via une application mobile. Donc il y a eu pas mal de choses qui sont proposées. Donc cette année, cette équipe d'étudiants proposait donc de cette espèce de borne d'accueil pour pouvoir établir un pré-diagnostic à partir de quelques questions et de mesures physiologiques. Bravo, c'est vrai que c'était une idée finalement assez évidente, mais qui n'avait pas encore été totalement développée. Donc voilà, l'idée a été récompensée, il reste maintenant à pouvoir la déployer, et donc d'ici quelques semaines apparemment, on pourra voir cela, notamment du côté de Rennes et peut-être un petit peu partout ailleurs, pour essayer de gagner du temps pendant ces consultations, et donc on pourra commencer notre consultation en salle d'attente avant de voir le médecin, et comme ça il saura tout quand on arrive dans son cabinet médical. Voilà, bravo les étudiants, c'est toujours intéressant. On continue à feuilleter l'actualité scientifique de Graphite, d'actualité scientifique dans cette émission Biotine sur l'antenne de Graphite. Je bafouille, ça va pas être simple, hein, je pense, pendant cette heure. Mais il y aura un petit peu de musique, donc ça va nous faire du bien. On va écouter ce titre de Pra sur l'antenne de Graphite, et puis on se retrouve juste après pour continuer à nous intéresser à ce qui se passe dans le monde d'un point de vue scientifique, technique et médical.
In contemplation, struck by no consideration, but you and I give it a better try. So tell me when you think of it, tell me how you do it, don't see it right. Do you feel the shake in your body when you take her? Where you're really not supposed to. When you think of it, some
Voilà, c'était Do It All Again de Prince sur l'antenne de Graphite. Il y a, vous connaissez peut-être ce film d'animation japonais qui s'appelle Akira, qui était adapté en 1988 à partir d'un manga. Et dans ce film d'animation, les restes d'Akira sont entreposés dans une chambre froide à destination des chercheurs du futur qui pourraient disposer d'instruments et de théories plus avancées pour comprendre ce qui s'est passé lorsque ces pouvoirs ont conduit à une explosion qui détruisait largement Tokyo. Ça, c'est dans le film d'animation. Eh bien, c'est un peu la réalité qui est en train de se passer avec les chercheurs de la NASA, du programme Apollo, qui ont suivi la même stratégie il y a 50 ans. Ils ont scellé des échantillons de sol et de roches lunaires à destination de leurs collègues du futur. Eh bien, on vient d'apprendre que les premières analyses avaient commencé un peu comme un cadeau de Noël, parce que ça a démarré fin décembre, pour justement les cosmochimistes, les exobiologistes. C'est ce qu'explique un communiqué récent de la NASA. Deux des neuf équipes autorisées aux États-Unis à analyser ces échantillons sont en effet à l'œuvre et on dispose à ce sujet du témoignage de Jamie El-Sila, astrochimiste au laboratoire d'analyse astrobiologique de la NASA. Il explique « Nous utilisons des instruments qui n'existaient pas lors des premières analyses des échantillons de la Lune. Parce que nos outils sont aujourd'hui plus sensibles, nous pouvons analyser des choses qui sont présentes en quantité infime. Nous pouvons également désormais séparer les composés chimiques d'un mélange, ce qui facilite leur identification. » Et donc avec ses collègues, Jamie El-Sila traque des acides aminés dans les météorites et les poussières de comètes et puis donc bien sûr dans les roches lunaires. Et on a déjà trouvé ces molécules du vivant, notamment dans la célèbre météorite de Murchison qui était tombée en 1969 et son analyse a révélé qu'elle contenait environ 70 acides aminés dont 8 font partie de celles qui composent les protéines de tous les êtres vivants terrestres. Donc c'était quand même assez intéressant. De même, en analysant de la matière se trouvant dans les collecteurs de la mission Stardust suite à son survol d'une comète, eh bien un groupe de chercheurs de la NASA avait également découvert de la glycine, un acide aminé fondamental pour les formes vivantes terrestres. Eh bien, dans le cas présent, Jamie El-Sila et ses collègues se penchent donc sur des échantillons collectés en 1972 près du site d'Apollo 17. Les astrochimistes y cherchent en particulier des molécules un peu particulières comme le formaldéhyde ou le cyanure d'hydrogène. La surface de la Lune elle a un avantage par rapport à celle de la Terre parce qu'elle n'a pas été remodelée en permanence par l'érosion et aussi la tectonique des plaques. Parce que sur Terre, il est très difficile de trouver des roches plus vieilles de 4 milliards d'années, de sorte que les indications sur ce qui se passait sur Terre à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'informations. Eh bien, c'est plus intéressant avec la Lune parce que la mémoire de la Lune devrait être meilleur et il semble bien que l'on puisse trouver d'anciens échantillons de roches terrestres sur la Lune sous forme de météorites. Les moyens modernes pour étudier les échantillons d'Apollo qui ne devraient pas avoir évolué depuis leur prélèvement pourraient donc révéler des surprises sur l'histoire non seulement de la Lune mais aussi de la Terre primitive et plus généralement les chercheurs vont pouvoir tester à quel point les systèmes de stockage des échantillons étaient efficaces. C'est important et important pour éliminer un petit peu les difficultés qu'il pourrait y avoir lors des analyses prévues des échantillons qui seront rapportés sur Terre après un long voyage en provenance par exemple de Mars. Mais donc voilà, la NASA sort du frigo des échantillons lunaires intacts pour pouvoir les analyser 50 ans après, c'est assez intéressant. Et voilà, ça date de fin décembre. Et bien sûr, j'espère que la NASA va pouvoir communiquer sur les informations qu'on va recueillir de la part de ces analyses. À voir, bien sûr. Et on suivra ça sur l'antenne de Graphite. Autre chose d'un point de vue médical, on a quand même encore pas mal d'études qui sont menées en ce qui concerne l'activité physique. Et alors, on le sait, bien sûr, pour rester en forme, il faut bouger. En France, le ministère de la Santé recommande d'ailleurs la pratique d'une activité physique d'intensité modérée durant au moins 30 minutes par jour. Mais quels sont exactement les bénéfices de ce type de recommandation en matière de prévention du cancer ? Eh bien, il y a des chercheurs de l'American Cancer Society aux États-Unis qui se sont posé la question. Ils ont analysé des études qui impliquent au total plus de 750 000 adultes qui ont été suivis sur plus de 10 ans et ils sont arrivés à la conclusion suivante. La pratique hebdomadaire de 2 à 5 heures d'une activité physique d'intensité modérée, donc 2 à 5 heures par semaine, donc on est bien dans l'idée de 30 minutes par jour à peu près, eh bien cette pratique permet de réduire significativement les risques de contracter 7 cancers différents. Le risque de cancer du côlon chez l'homme a été diminué de 8% avec une activité de 2h30 par semaine, de 15% avec 5 heures d'activité par semaine. Et le même type de résultat est obtenu pour le cancer du sein chez la femme, le cancer du rein, du foie également, et aussi en ce qui concerne le lymphome. Les recommandations des différents ministères sont basées sur leur impact sur les maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires et le diabète. Eh bien, nos travaux confirment qu'elles sont aussi importantes en matière de prévention du cancer. C'est ce qu'explique Alpa Patel, directrice scientifique principale de la recherche épidémiologique, justement au sein de ce laboratoire, l'American Cancer Society, aux États-Unis. Donc, 2 à 5 heures d'activité physique par semaine réduirait les risques pour 7 cancers. C'est la conclusion de cette étude. Et voilà, c'était aussi intéressant parce qu'on n'avait pas, pour l'instant, fait une corrélation entre l'activité physique régulière et le risque de cancer. Et donc voilà, cette première étude, assez importante, parce que vous l'avez compris, elle porte quand même sur un nombre assez important de personnes impliquées dans cette étude, montre voilà, qu'il y aurait des bienfaits, à confirmer bien sûr, mais ce serait quand même là encore quelque chose d'assez évident qui serait confirmé par des recherches scientifiques. Allez, on continue à feuilleter l'actualité scientifique et puis on continue aussi à écouter un petit peu de musique parce qu'il n'y a pas de raison.
De la lime à la lame, de la bue à l'abîme, de la boue à la cime, de la frime à la flamme, du rire oral, de la rime à la rame, de l'espace à l'espèce, de laisse-moi, laisse-toi, du carreau à la caresse, du terreau au cara, du caveau au palais, du cousu au paria, du passé au parfait, du parfait à l'abstrait, du présage au présent, du firmament au filament, des firmalons au faux fuyant, du film entourant tout. Aliments, de la crue à la crise, du sucré au salé, du dégoût à l'emprise, de la chute à l'assise, du repli à l'assaut, du sirocco à la brise, de l'oubli à l'égard, du départ au dépôt, de ta peau à ma part, de l'éclat au déclin, du sérien au sérum, de l'ébat au dédain, d'un bout à l'autre, de l'azur à l'azote, de la horte à la ville, de la horde à l'exil, du péril au péril, de l'idylle à l'idiot, du stérile au fécond, de l'idéal à l'étau, de soyeux à souiller, du brouillon au bouillon, de touchant à toucher, de l'allure à la perte, des souhaits au saillet, des augures à l'alerte, de l'amour à l'inerte, du sable à la poussière, de l'homme à la bête, de l'ennui à l'envie, des prières au silence, du printemps à l'hiver, de l'inertie au silence, de l'amant à la mer, de l'âme sœur à la mer, de la peur à la paire, de la sphère à l'équerre, de l'écran à la guerre, de l'eau claire à l'alcool, de l'enfer à l'envol, du ciel au sol, d'acidade ou du nid douillet à l'alvéole, d'inouï à placide, de fragile à solide, de gazeux à liquide, du paumé au prodige, du génie au gênant, des liens du sang au litige, de la stase au torrent, de l'aimant au damné, du cyprès au ciment, de la rouille au lisant, du passure au pas de chance, de la passe à la passion, de la casse à la cadence, de la phobie à l'action, de l'opulence à la nasse, du lubricant indigent, de la neige à la mélasse, de l'adulte à l'enfant, du confort au carcan, de l'occulte au brillant.
l'escrime de l'estime. C'était In Vivo sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. On va s'intéresser à ce qui se passe en Inde. J'ai trouvé cet article sur Futura Science et je me suis dit, mais il y a quand même des choses assez bizarres qui se passent. Et donc là, en Inde, on sait que l'Inde est le premier producteur mondial d'opium légal qui est utilisé principalement dans l'industrie pharmaceutique pour la production de codéine et de morphine. Dans le centre du pays, la province qui s'appelle la province de Madhya Pradesh concentre à elle seule 75% de ce commerce. 38 000 hectares de pavots y sont cultivés avec 30 000 agriculteurs qui disposent d'une licence spéciale. Voilà le contexte. Mais ces agriculteurs sont confrontés à un ennemi totalement inattendu, ce sont des perroquets. Ces derniers temps, la vie des agriculteurs indiens s'est transformée en une espèce de film à la Hitchcock, avec des oiseaux qui vont fondre en piqué sur les champs. Et une fleur de pavot donne entre 20 à 25 grammes d'opium, mais un large groupe de perroquets se nourrit entre 30 à 40 fois quotidiennement. Certains, ils en portent même les gousses. Tout cela affecte la production. C'est ce que se lamente un cultivateur local qui avait été interrogé sur une chaîne d'information indienne. Les perroquets pullulent sur les arbres, les toits des fermes, ils attaquent les champs à l'aube, ils grignotent les gousses, ils veulent en fait siroter ce liquide blanc et laiteux qui est riche en opium. Alors, si les oiseaux, et notamment les perroquets, sont tellement déterminés, c'est que leur opium leur fait le même effet que le café chez nous. En fait, il leur procure instantanément un boost d'énergie, c'est ce qu'explique le docteur Shundawat, qui est spécialiste de l'opium au collège d'horticulture de Mansour. Une fois qu'ils ont expérimenté cette sensation, eh bien, ils tombent rapidement dans une addiction. En fait, ces perroquets sont totalement accros à l'opium. Les vols bancals et désorientés des perroquets rendent leur état d'intoxication évident. Hein, et c'est ce que rapporte également un journal local qui s'inquiétait déjà du phénomène il y a 2 ans. Les perroquets finissent souvent par s'écraser sur les arbres et les branches où ils sont retrouvés totalement groggy dans les champs après un étourdissement. Ils s'envolent une fois les faits estompés avant de revenir à nouveau. Alors tout cela fait rire mais inquiète en fait les agriculteurs qui sont déjà menacés par une sécheresse persistante. Nous perdons jusqu'à 15% de notre récolte à cause de ces perroquets. Il n'y a aucun moyen de se protéger contre eux. C'est ce qu'explique un cultivateur d'opium. Et il y a eu des mégaphones, il y a eu des feux d'artifice, il y a eu plein de tentatives pour essayer de faire fuir les oiseaux. Pour l'instant, ça n'a donné aucun résultat. Pas besoin toutefois d'être un perroquet, d'habiter en Inde pour se shooter au pavot. Le 1er mars dernier, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait lancé une alerte sur la consommation de pain au pavot après des tests montrant des quantités anormalement élevées d'alcaloïdes chez des personnes qui avaient récemment consommé ce type de pain. La consommation d'un seul des sandwichs analysés équivaut à 4 mg de morphine, l'équivalent à peu près d'un demi-comprimé de Skenan, qui est un médicament qu'on donne aux malades qui souffrent d'un cancer. Alors du coup, il faut faire très attention avec ce pain au pavot. Et c'est ce qu'avait expliqué Jean-Claude Alvarez, qui était chef du service de pharmacologie à l'université, au centre hospitalier universitaire Raymond Poincaré à Garches, dans les Hauts-de-Seine. Et il était à l'origine d'une alerte dans le journal Le Parisien. Les graines de pavot ne contiennent pas elles-mêmes d'alcaloïdes, mais elles peuvent être contaminées par le latex de la plante. Donc vous voyez, même chez l'homme également, faites attention si vous mangez du sandwich à base de pain au pavot. Mais là, les perroquets sont totalement accros à l'opium et ils saccagent des champs entiers de pavots en Inde. Ça fait pas mal parler dans les médias indiens. Mais voilà, et donc on a des images totalement hallucinante, c'est le cas de le dire d'ailleurs, c'est la bonne expression, de ces perroquets qui sont totalement shootés parce qu'ils mangent de l'opium. C'est quand même extraordinaire, franchement. Ils ont compris que c'était un bien et donc du coup ils y sont allés. Alors on va... Aucune transition d'ailleurs avec la suite, parce que là on va parler de cette start-up qui s'appelle Tesla Suite. Elle est connue pour avoir créé un costume conçu pour être utilisé avec la réalité virtuelle. Eh bien, la firme Tesla Suite avait lancé son projet en 2016, mais elle vient d'annoncer maintenant cette fois d'autres projets, notamment des gants haptiques pour compléter son costume, et elle compte les présenter, elle va les présenter, elle les a présentés d'ailleurs, je vais y arriver, à Las Vegas, au fameux CES, c'est là où toutes les technologies sont présentées début janvier. Cette paire de gants, en fait, pour la réalité virtuelle, peut être utilisée indépendamment ou connectée avec un costume via un Wi-Fi, et ces gants contiennent ce qu'on appelle un affichage haptique sur chaque doigt, soit il y a 9 électrodes pour essayer de donner une sensation de toucher un objet virtuel. C'est quand même fascinant. C'est-à-dire, ces gants touchent un objet virtuel et on a vraiment la sensation du toucher. Ils sont surmontés d'un exosquelette qui permet de créer une résistance et des vibrations pour simuler la prise en main des objets. La firme a également truffé les gants de capteurs pour déterminer la position de chaque doigt ainsi que du poignet. Et donc, ces gants embarquent aussi un oxymètre de pouce qui permet notamment de mesurer la fréquence cardiaque, ce qui permettra de mesurer les réactions comme le niveau de stress de l'utilisateur pendant qu'il interagit avec les objets virtuels, par exemple dans un jeu. Voilà, ça peut être aussi intéressant. Ces gants sont conçus en premier lieu pour une utilisation professionnel. Le constructeur imagine des applications dans le téléguidage des robots ou encore dans la rééducation médicale, et de ce fait il ne faudra pas s'attendre à les retrouver combinés au casque virtuel pour les jeux pour l'instant, mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Alors, Tesla Suite a annoncé un prix final aux environs de 5 000 $, mais ne propose pas encore de les essayer parce que la version actuelle est encore en test. Dans le meilleur des cas, ce gant sera disponible plutôt au second semestre 2020, mais voilà, on aura des gants qui vont nous permettre de toucher des objets virtuels. Je n'arrive pas à comprendre la signification de cette phrase, quoi. Maintenant, on va pouvoir toucher des objets virtuels et avoir la sensation de pouvoir les toucher et de les prendre en main. C'est avec ces gants. C'est assez fascinant. Il y a pas mal de choses qui ont été présentées à Las Vegas, et on fera une émission spéciale, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, je crois, où on fera un petit peu un point sur ce qui a été présenté à Las Vegas, parce que c'est toujours fascinant. Allez, on écoute toujours un peu de musique aussi dans Biotine, parce que ça nous fait plaisir. Et on se retrouve juste après, on va continuer comme ça à feuilleter l'actualité scientifique. Et n'abusez pas de la morphine ni du pain au pavot, s'il vous plaît, même si vous êtes à table.
We'll be right back.
Trop petite, c'était Mouse DTC dans l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis. En fait, je suis en train de me dire Mouse DTC, mais ça se dit aussi Mouse DTC. Oui, DTC, je le disais en anglais, mais ça fait aussi DTC. C'est sympa comme nom de groupe, ça. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. J'avais envie de vous parler de la couche d'ozone. Il y a 35 ans, la découverte d'un important trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique a été un choc. Alors, malheureusement, pas pour tous les membres de la communauté scientifique, car en 1974, la sonnette d'alarme avait déjà été tirée par différents chimistes, et notamment Frank Rowland et Mario Molina. Ils avaient compris que le mécanisme chimique de destruction de l'ozone par des émissions d'oxyde nitrique avait un analogue avec les émissions des fameux CFC, les chlorofluorocarbones. Cela devait conduire à la destruction des molécules d'ozone, et les travaux des trois chercheurs virent leur bien fondé reconnu en 1976 par l'Académie nationale des sciences américaines, de sorte que l'emploi de ces CFC comme gaz propulseur dans les aérosols fut déjà banni en 1978 par le Canada, la Norvège et les États-Unis en avance sur leur temps. Mais l'ampleur du trou de la couche d'ozone découvert indiquait qu'il fallait aller bien plus loin dans l'interdiction de ces fameux CFC et même les hydrochlorofluorocarbones. Et en réponse, la plupart des pays producteurs et utilisateurs de ces CFC ont ratifié en 1987, le protocole de Montréal, et ont rapidement mis sur le marché des produits de remplacement. Ça nous dit peut-être pour certains d'entre nous quelque chose, le protocole de Montréal. Nous sommes en 1987. En récompense de leurs travaux, eh bien Paul Crutzen, Frank Rowland et Mario Molina avaient reçu le prix Nobel de chimie en 1995. Ok, d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle sonnette d'alarme qui se fait de plus en plus insistante en ce qui concerne le réchauffement climatique et le protocole de Kyoto. Les différentes COP, COP21 par exemple, et toutes les autres qui ont accompagné et suivi, n'ont pas donné les résultats escomptés. Eh bien, une nouvelle étude publiée dans Environmental Research Letters vient confirmer ce que des chercheurs suggéraient il y a déjà une décennie. Il s'agit aujourd'hui de climatologues australiens, et tout comme leurs collègues américains de l'époque, eh bien, leurs affirmations sont basées sur des calculs, et dans le cas présent, c'est tout de même le puissant modèle climatique qu'on utilise à l'aide d'un superordinateur qui a été mis en place. Et la résultat de tout ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les résultats obtenus sont vraiment spectaculaires parce qu'ils montrent notamment que sans le protocole de Montréal, le réchauffement climatique sur Terre vers 2050 aurait été de 1 degré de plus en moyenne. Et toujours dans le cadre de ce scénario et des simulations qui ont été réalisées, un réchauffement compris jusqu'à 1 degré aurait déjà été évité en Amérique du Nord, en Afrique et en Eurasie, et vers 2050, les élévations de température évitées dans certaines de ces régions seraient de 2 degrés dans l'Arctique, voire 4 degrés. On a évité cela grâce au protocole de Montréal de 1987. C'est ça qui est intéressant parce que on voit que le fait d'avoir essayé d'agir sur le trou de la couche d'ozone, eh bien cela a eu un impact sur la réduction du réchauffement climatique. C'est quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque identifié et anticipé. Et pourquoi donc un tel impact de ce protocole de Montréal? Eh bien, Rishav Goyal, qui est le principal auteur de cet article, explique que pour une même masse, ces fameux CFC sont des milliers de fois plus puissants comme gaz à effet de serre que le dioxyde de carbone. Donc le protocole de Montréal a non seulement sauvé la couche d'ozone, mais il a également atténué une fraction substantielle du réchauffement climatique. D'une façon remarquable, ce protocole a eu un impact beaucoup plus important sur le réchauffement climatique que l'accord de Kyoto, qui a été spécifiquement conçu pour réduire les gaz à effet de serre. Les mesures prises dans le cadre de l'accord de Kyoto ne réduisent produiront les températures que de 0,1 degré d'ici le milieu du siècle. On est très loin de ce 1 degré d'atténuation grâce au protocole de Montréal. C'est ça qui est intéressant. Le succès du protocole de Montréal démontre à merveille que les traités internationaux visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre fonctionnent vraiment. Ils peuvent avoir un impact très favorable sur notre climat et nous aider à éviter des niveaux dangereux de changement climatique. Voilà, c'est un article tout récent et qui fait donc une corrélation, et c'est vraiment intéressant, entre ces actions qui ont été mises en place pour la réduction du trou rouge et la cause d'ozone. On se souvient, voilà, dans la fin des années 80 et début des années 90, on avait ces aérosols où il y avait un espèce de logo, il y avait une terre avec une main dessus qui expliquait de protéger la terre avec ce trou de la couche d'ozone. Eh bien, quelque part, d'une façon directe, mais en tout cas, on ne l'avait pas anticipé à l'époque, on a pu également réussir à abaisser ce réchauffement, enfin ralentir et abaisser le réchauffement climatique par rapport aux prévisions qui avaient été faites à l'époque. Et ça montre que quelque part, quand une communauté internationale s'engage dans quelque chose, elle peut aboutir à des bons résultats. Donc on l'a fait avec Montréal en 1987, on pourrait peut-être être capable de le faire prochainement. C'est ce qu'il faudrait souhaiter et c'est ce qui serait pas mal, bien sûr. Allez, on continue d'écouter un petit peu de musique sur l'antenne de Graphite et on se retrouve juste après pour continuer, voilà, à nous intéresser à ce qui se passe dans le monde parce que ça nous concerne. We'll be right back. Party in Paris, c'était Punk Girls Brass sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h Biotine pour vous tenir informé de l'actualité scientifique, et vous avez bien raison, ça nous permet voilà, de nous intéresser un petit peu à ce qui se passe dans le monde. Alors il y a des choses assez comment dire, pas toujours réjouissantes, assez lourdes de conséquences, des choses un petit peu plus légères comme des perroquets qui sont en train de se shooter à l'eau. L'opium, hein, c'est ce qu'on avait vu, mais il y a aussi des choses qui sont un petit peu, qui illustrent un petit peu, je dirais, l'évolution de notre comportement et du fait que l'intégration de certaines technologies dans notre quotidien a un impact qui n'est pas négligeable. Par exemple, les téléphones, les smartphones même, ne devraient pas être entre vos mains lorsque vous traversez la rue. C'est la recommandation de Boris Pashkover, chirurgien à l'école médicale Rutgers aux États-Unis, après une étude qui a été menée justement récemment aux USA. Cette étude révèle en effet que le nombre de blessures à la tête et au cou a augmenté depuis l'apparition des smartphones. Vous ne faites pas attention et vous mettez tout le monde en danger, c'est ce qu'il explique Boris Pashkover. En fait, cette étude porte sur les cas décrits entre début 1998 et fin 2017. Donc on est sur 20 ans à peu près. Eh bien on voit une nette augmentation des blessures à partir de 2007, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu la mise sur le marché de l'iPhone. L'idée, c'est pas l'iPhone en tant que téléphone, parce que vous pouvez téléphoner, ça vous distrait un petit peu, mais en tout cas, vous avez les yeux levés. Ce que les chercheurs mettent en cause, en fait, ce sont les applications qui sont apparues en même temps que les smartphones. Et là, bah, vous baissez la tête parce que vous regardez plutôt votre téléphone que votre environnement dans la rue. Et la base de données du système de surveillance électronique nationale américain qui se concentre sur les urgences d'une centaine d'hôpitaux seulement à travers les États-Unis fait ainsi état de 2500 blessures dues principalement à des trébuchements ou à des chutes. Et en fait, les chercheurs, ils estiment que sur l'ensemble du pays, avec des données qui seraient plus fiables, on pourrait atteindre le chiffre de 76 000 blessures. Et certains pays ont commencé à sanctionner les piétons imprudents. Boris Pashkover, quant à lui, souhaiterait que soient enseignés aux gens les dangers des SMS et imposer une amende aux personnes qui utilisent leur smartphone lorsqu'ils traversent la rue, car c'est finalement dans cette situation précise que se produisent de plus d'accidents. Donc soyez, je ne sais pas, mais j'ai un moment, mais vivez et profitez de ce qui se passe aux alentours au lieu d'avoir votre nez sur les smartphones et de traverser en même temps. C'est totalement inconscient. Et donc là, du coup, une étude révèle ce qu'est le bon sens, en fait, quelque part. Je veux dire, si vous avez le nez dans votre téléphone, vous ne voyez pas ce qui se passe, c'est paf le chien, bien sûr. Donc voilà, c'était une petite étude. Deuxième étude, ce sont les mugs en bambou. Alors, aucune transition, d'ailleurs je n'ai même pas cherché à en avoir une. Les mugs en bambou, bon c'est bio, c'est écolo, c'est chic, c'est biodégradable, hein. Mais ces tasses fabriquées à base de mélamine, qui est une résine polymère renforcée de fibres de bambou, ces tasses contiennent des composés dangereux. C'est ce que met en garde l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques. La mélamine n'est pas elle-même toxique, mais lorsqu'elle est exposée à la chaleur, eh bien elle va se décomposer en monomères et en formaldéhyde, qui sont des composés classés cancérigènes. L'Institut allemand a mené des tests sur plus de 200 types de mugs en bambou et a constaté des niveaux alarmants de toxines lorsqu'on y verse des liquides de plus de 70 degrés, ce qui est quand même totalement normal quand on se fait un café ou un thé. Et dans 35% des cas, les valeurs limites européennes sont dépassées, avec des niveaux parfois 30 fois supérieur au seuil de sécurité pour les adultes et 120 fois le seuil pour les enfants. Pire, la quantité de mélamine relâchée s'accroît au fur et à mesure des expositions répétées à l'eau chaude ou alors avec des liquides un peu acides comme les coca notamment. Ne sont toutefois concernés que les mugs qui contiennent du bambou. Parce que les autres tasses en mélamine, elles affichent des taux de substances toxiques bien plus faibles. En fait, c'est le fait d'intégrer des fibres de bambou qui va dégrader un petit peu le réseau formé par les polymères au sein de la mélamine. Et donc, le liquide chaud va accélérer un petit peu cette décomposition de la résine, si bien qu'on va retrouver des composés cancérigènes qui vont se décomposer et qu'on va retrouver dans notre thé, ce qui serait un petit peu dommage. Mais donc voilà, c'est l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques qui tire un petit peu la sonnette d'alarme sur ces mugs en bambou. Donc si vous avez reçu ça pour Noël, eh bien écoutez, à la rigueur, conservez-les comme peau à fleurs, mais sachez que ça peut être dangereux pour la santé parce que du coup il pourrait y avoir une dégradation suite à l'utilisation répétée de tout cela. En fait, on ne sait plus ce qu'il faut faire maintenant. On essaye d'être écolo et moderne, eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça malheureusement. Allez, on écoute un dernier titre avant de terminer cette émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Sous les yeux le gris, sous la peau le gras, confort et confit, docteur Lella. Tous les gens terrés, trop peur du trépas, partout répété que le pire va là. Docteur, tout le monde a peur, docteur, tout le monde y croit. Sous la clameur et les abois, tout le monde a peur de quoi? La main et les abois, docteur a peur de quoi? Voilà, c'est pas vrai, la guerre fait son beurre, mais pourtant la paix, docteur menteur. C'est vrai, le progrès avance en lenteur, le bout de mon nez, plus loin, docteur. Docteur, tout le monde a peur, la clameur et les abois, tout le monde a peur de quoi? Docteur, tout le monde a peur, docteur, entend les voix. Sous la clameur et les abois, docteur a peur de quoi? Partout des aveux, on veut moins qu'avant. L'ombre des armées désormais moins s'étend. Vois les avancées, sûrement la mêlant à sentir le vent. Alors, docteur, tout le temps.
Docteur, c'était Hildebrandt sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis avec Jean-Noël pendant une heure, entre 12h et 13h, pour nous intéresser à l'actualité scientifique. Alors, deux dernières informations, une médicale et une liée plutôt à, je dirais, l'évolution de l'homme. On va commencer par le médical parce que je sais pas, c'est un sujet qui n'est pas évident non plus à traiter, donc on va peut-être commencer par celui-ci. Concerne des informations qui nous viennent de l'Institut National du Cancer, qui explique que le cancer de la prostate est le premier cancer masculin, suivi des cancers colorectaux et du poumon. Plus de 8000 personnes en sont mortes en 2015, surtout des hommes de plus de 75 ans. Le cancer de la prostate est difficile à diagnostiquer, impossible de distinguer une tumeur qui deviendra agressive d'une tumeur bénigne. De plus, un des moyens de dépistage est particulièrement redouté parce que c'est le toucher rectal. Il s'agit en fait d'introduire un doigt ganté dans le rectum pour palper la prostate, ce qui est franchement pas génial, bien évidemment. Il y a des scientifiques anglais qui ont développé un kit de dépistage simple et moins incommodant qui s'appelle le PIRER test. Il s'agit d'un test urinaire à faire chez soi, dans lesquels on recherchera l'expression de trois gènes spécifiques des cancers de la prostate. La prostate, c'est un organe sécréteur, donc les sécrétions entraînent des cellules et des molécules de la prostate qui vont être ensuite évacuées par l'urine. Et si un cancer est présent, alors des cellules tumorales seront aussi transportées par les sécrétions. Elles seront détectables dans l'urine. C'est ce qu'indique Jeremy Clark, le chercheur aux commandes de cette étude, étude qui a été publiée dans le journal Biotechnics. Pour que le test soit efficace, il faudra impérativement collecter les premières urines matinales. Alors, comme la prostate sécrète en permanence, les biomarqueurs dans l'urine seront présents en plus grande quantité le matin, et donc on va pouvoir analyser l'expression de trois gènes qu'on pourra retrouver dans ces urines. Les résultats de ces tests urinaires ont été comparés à ceux obtenus après un toucher classique rectal chez 14 volontaires. Les échantillons d'urine pris à la maison montrent les biomarqueurs pour le cancer de la prostate bien plus clairement qu'après un toucher rectal. C'est ce qu'explique Jeremy Clark. Selon lui, donc, les bénéfices iront aussi aux patients puisque la surveillance des cancers de la prostate sera beaucoup moins stressante, bien sûr, et qui nécessitera aussi moins de voyages à l'hôpital. Ce test pourrait révolutionner l'approche dans le dépistage du cancer de la prostate. Les hommes n'auraient à se déplacer que dans les cas de résultats positifs. De plus, ce test permet de diagnostiquer un cancer bien plus tôt que les méthodes traditionnelles. Notre étude préliminaire publiée plus tôt cette année a montré que l'urine est utile pour diagnostiquer les cancers de la prostate et prédire s'il deviendra plus gros et plus virulent dans les 5 années à venir. C'est ce que précise Jeremy Clark. Ainsi, un homme avec un résultat négatif ne sera dépisté que tous les 2 ou 3 ans, et le test a reçu un prix d'innovation qui a permis d'avoir des fonds nécessaires aux prochaines étapes du développement de ce test. La prochaine étude se fera sur plus de 1500 hommes provenant d'Europe mais aussi d'Amérique du Nord. Nous espérons que ce test pourra être utilisé dans les hôpitaux d'ici 5 ans, c'est ce que conclut Jeremy Clark. Si cette étude de validation confirme les résultats précédents, eh bien ce test pourra remplacer donc le toucher rectal. Voilà, c'est une avancée qui peut être vraiment intéressante et prometteuse dans le cas du cancer de la prostate, parce qu'effectivement, ça sera quand même un petit peu plus simple de faire pipi que de se mettre un doigt. En clair, c'est un peu ça. Deuxième chose, aucune transition là non plus, mais de toute façon, je n'en cherche plus depuis un certain temps. On va parler des mammifères modernes. Les hommes, notamment, doivent leur sens de l'ouïe à 3 petits os de l'oreille moyenne, le marteau, l'enclume, l'étrier, ça on l'avait appris à l'école. Et les reptiles, leurs ancêtres, reptiles, n'en a pas. Les scientifiques n'arrivaient pas en fait à dater le début de l'apparition de cette transformation. Eh bien, une étude publiée dans Science et menée conjointement par des chercheurs chinois et américains met en lumière ce qui pourrait être le chaînon manquant entre un système auditif ancien et celui qu'on connaît aujourd'hui. Il s'agirait d'une espèce qui vivait il y a 125 millions d'années dans la région un petit peu du nord-est de la Chine. Ce sont des preuves fantastiques. C'est ce qu'explique le biologiste spécialiste de l'évolution Guillermo Rougier. Les fossiles analysés sont au nombre de 6 et appartiennent à une espèce de mammifère qui ressemble un petit peu à des marsupiaux. C'est des animaux qui ont côtoyé les dinosaures. Ils avaient un petit peu l'apparence de rongeurs quelque part. C'est une espèce de souris un petit peu plus gros, une espèce de gros rat. Ce qui était intéressant, c'est que les reptiles, ils utilisent leur mâchoire pour mâcher, bien sûr, et pour transmettre des sons externes par vibration jusqu'à leur cerveau, parce qu'ils ne possèdent pas ces fameux petits osselets de l'oreille moyenne. Eh bien, selon l'hypothèse scientifique de cette étude, la séparation progressive des deux fonctions, à savoir mâcher d'un côté et entendre de l'autre, cette séparation aurait permis d'alléger un petit peu les contraintes mutuelles qui pesaient sur ces mâchoires, et les mammifères auraient pu à la fois diversifier leur régime alimentaire vocabulaire et à améliorer leur ouï également, des caractéristiques qui leur ont conféré cet avantage évolutif. Et donc on a trouvé un petit peu le chaînon manquant grâce à ces fossiles pour nous permettre d'expliquer la naissance quelque part des oreilles. Et c'est aussi intéressant de voir qu'en 2000, donc là ça date de fin 2019, de voir qu'en 2019 il nous manquait encore des éléments sur l'évolution de l'homme et notamment au niveau des oreilles. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement entendu parler. Et bien voilà, il y a eu des études qui ont été faites, des fossiles qui ont été retrouvés et analysés. Et là on aurait peut-être une explication de l'apparition de ce cinquième sens. Grâce à Louis, vous avez pu écouter Biotine pendant une heure sur l'antenne de Graphite et je vous en remercie. C'est la fin de cette émission. Dans un instant, la suite de vos programmes sur l'antenne de Graphite. Vous retrouvez Biotine bien sûr en podcast comme toutes les autres émissions de Graphite sur le site internet graphite.net. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Graphite. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Au revoir.